Terrorista Web.
Alors, je voudrais vous parler aujourd'hui dans Passerelle de quelque chose que tout le monde ici possède mais qui n'est pas visible, quelque chose de différent chez chacun de nous mais qui fait partie de notre identité et dont on se sert tous les jours. Je voudrais parler ici de quelque chose qui nous regroupe, nous qui aimons tous parler derrière les micros, quelque chose qui est à la fois un outil, un instrument, une œuvre d'art, quelque chose qui est un vecteur d'émotion qui trahit nos sentiments et que l'on peut travailler et éduquer.
Pour obtenir cette clé.
Alors bon, non, ça va, Gugu, j'arrête mes énigmes, j'ai compris, je vous donne la réponse. C'est bien de la voix dont on va parler ce soir. De la voix dans l'histoire, sous tous les angles, de la voix en science, dans les arts, à la radio et au quotidien. C'est parti pour un voyage spatial et temporel. Est-ce que tu es prête, Gugu? Alors, commençons d'abord par parler histoire, car oui, la voix a une histoire, et oui, la voix traverse l'histoire. Mais attends, Gugu, comment ça, la voix a une histoire? Ah oui, en effet, la voix a une histoire et cette histoire débute très très tôt. Est-ce que tu es prête pour nous faire voyager dans le temps, Gugule? Alors, la voix, elle naît en fait il y a 4 millions d'années et elle caractérise l'homme avec un grand H. Pourquoi? Eh bien parce que d'abord, l'homme, contrairement au singe, a évolué pour se tenir debout, droit, et que en fait, c'est cette position qui a permis au larynx de descendre d'une vertèbre à l'autre et de créer une caisse de résonance. Donc en fait, c'est cette position qui a permis à la voix de pouvoir se développer. Et ensuite, parce que c'est par cette verticalité et par la voix que s'est développé le cerveau. Et très vite, les voix et les paroles deviendront essentielles pour notre société. Que serions-nous sans les mythes fondateurs transmis oralement? Que serions-nous sans les chants et les prières qui soudent les individus et créent des communautés? Et la voix, d'ailleurs, est indispensable à la vie. Ben non, Gudule, j'exagère pas, calme-toi. Sans voix, pas de vie. La preuve, avec cette expérience complètement bizarre, menée par Frédéric II, un empereur du Saint-Empire romain germanique. Alors l'empereur, qui devait être un petit peu tordu sur les bords, a confié à des nourrices plusieurs nouveau-nés ayant entre 3 jours et 2 mois, et il a demandé à ces femmes de ne pas dire un seul mot à ces bébés. Le but de l'expérience, c'était de savoir en quelle langue allaient s'exprimer les enfants. En fait, ils se demandaient s'il existait une voix originelle. Résultat, eh bien, à 4 ans, ils ne parlaient aucune langue et tous sont morts entre 9 et 10 ans. Pourquoi? Parce que sans voix, pas d'émotion et pas de stimulation. Alors oui, bonne idée, Gudule, un petit voyage historique pour explorer le rôle de la voix dans l'histoire. Première escale temporelle, où sommes-nous, Gudule, en Antiquité? Alors d'abord, question vocabulaire, les stoïciens distinguaient deux mots pour parler de la voix, la phoné, le travail des organes, et la aodé, la voix en tant que moyen de communication. Et autre fait plutôt intéressant, l'usage du mot voix, en fait, n'est pas du tout l'apanage exclusif de l'homme, puisqu'on le retrouve à propos de bruits provenant de la nature ou d'objets fabriqués. Donc oui, dans l'Antiquité, les bruits ou les objets pouvaient avoir une voix. Et puis, vous vous en doutez, la voix était liée au divin. Un exemple, les muses. Hésiode qui reçoit des muses une voix inspirée, une voix qui lui permet de retrouver le langage que les hommes partageaient autrefois avec les dieux. Et oui, Gudule, en Antiquité, la voix a aussi un rôle essentiel, et c'est la première porteuse de nouvelles. Le héros annonce aux hommes assemblés les décisions des chefs, et les théors, eux, annoncent de cité en cité la tenue de fêtes religieuses ou de concours. Et même quand l'écriture prendra le dessus, avec l'inscription des traités dans le marbre par exemple, les décisions seront toujours annoncées oralement. D'ailleurs, la voix soude aussi les communautés. Dans la forge, dans le paloir ou le lécher, on discute des nouvelles arrivées par bateau et relayées par les voix des marins. Et même chose dans les symposia ou les beuveries réservées aux gens aisés. Même chose au terme ou à l'agora. Exact, Gudule, en Grèce antique et à Rome, c'est par la voix que se transmettent les sentiments qui font vibrer la foule lors des tragédies ou des discours des orateurs. Et d'ailleurs, le travail de la voix est une discipline essentielle pour les orateurs. Pour Aristote, l'action se résume à la voix, comme ça c'est clair, et Cicéron affirmait même, pour l'heureux emploi de l'action oratoire, le rôle le plus important est sans aucun doute dévolu à la voix. D'où les nombreux traités qui enseignaient comment utiliser sa voix à bon escient. Il fallait que la voix soit à la fois souple, endurante, flexible et expressive, rien que ça. Bref, mythes, discours philosophiques, débats publics et politiques ou au théâtre, la voix dans l'Antiquité est partout. Alors oui, t'as raison, Gudule, assez parlé d'Antiquité, il est temps d'aller voir au Moyen-Âge. Et oui, au Moyen-Âge aussi, la voix est partout dans notre quotidien et dans le quotidien de ces personnes du Moyen-Âge. C'est le médiéviste Paul Zumthor qui le dit, l'écriture n'est pas la forme hégémonique du langage au Moyen-Âge. Au contraire, le Moyen-Âge, c'est un régime d'oralité.
«
Mais cette voix, on va le voir dans cette émission, a toujours été instrument de pouvoir et de création de communautés. Et je vous propose de le voir avec un cas précis pour le Moyen-Âge, celui des rumeurs, un vrai sujet politique et social. Alors oui, pourquoi un sujet social, la rumeur ? Eh bien, parce que la rumeur, écrit Claude Gauvard, c'est un vecteur de cohésion sociale. Elle désigne un nous en désignant un autre qui soude. Elle désigne un nous en désignant un autre, pardon, et donc elle soude la communauté qui la diffuse ou qui la reçoit. La rumeur, elle sert aussi les oubliés du politique. Leur voix, enfin, peut avoir un effet et être intégrée dans l'espace public. Bref, la rumeur, c'est la manifestation d'une conscience politique. Car oui, la rumeur est aussi politique qu'elle peut avoir de vraies conséquences. Je t'en donne, par exemple, des exemples gudules. En 1469, le comte de Warwick Richard Neville et George, le propre frère du roi Édouard IV d'Angleterre, répandent une rumeur sur la bâtardise d'Édouard IV d'Angleterre. Des rumeurs donc qui permettent de faire courir des bruits qui peuvent avoir un fort impact sur l'opinion publique, d'où le fait que le pouvoir utilise des réseaux d'informateurs informels, marchands ou frères mendiants, et envoie même des émissaires collecter les nouvelles quand ils ne créent pas de faux bruits pour manipuler l'opinion. Oui, t'as raison, Gudule, il est temps d'aller faire un saut maintenant au XVIIIe siècle. Quel rôle pour la voix à cette époque ? Alors, comme les siècles précédents, la société du XVIIIe repose sur l'oralité. Conversation de rue ou de salon, badinage, cris et gémissements, paroles du pouvoir, la société populaire est, je cite, « un immense chant sonore et vocal ». Paris est une cacophonie indistincte et la parole et la conversation confuse sont les vecteurs clés de la communication pour les classes peu lettrées. Alors, comment retrouver ces voix disparues ? Eh bien, c'est justement ce que s'est demandé l'historienne Arlette Farge, qui a voulu retrouver ces voix à partir d'archives. Eh bien oui, Gudule, on peut se demander quelle était sa conclusion. Eh bien, d'abord, la voix reflète la hiérarchisation des positions sociales. Les aristocrates cherchent à se démarquer par leur voix plus aiguë, leur scansion particulière, et la voix recoupe aussi un aspect politique. Les patois dominants, par exemple, sont une menace pour l'unité nationale. Oui tiens, bonne question Gudule, et la voix aujourd'hui ? Eh bien, la voix, elle est partout, ces voix polyphoniques et multiples nous entourent, et c'est Gaël Josse dans De Vive Voix qui s'empare de ces voix qui surgissent, de ces voix qui survivent dans un environnement où dominent les images, les voix des inconnus qui résonnent en nous, les voix qui se glissent entre les interstices de la mémoire et les plis du quotidien. Je vous encourage à lire ce texte de Gaël Josse, De Vive Voix. Mais pour explorer la voix aujourd'hui, faisons un tour rapide du côté des sciences. Numéro 1, la voix et sentiments. Et en effet, quoi de mieux que la voix pour trahir nos sentiments et quoi de mieux que la voix pour nous tirer des larmes ? Eh bien, la voix vient de trois éléments. Les poumons pour le souffle, la corde vocale pour les vibrations, mais aussi de deux régions du cerveau, le cerveau gauche pour la raison et le cerveau droit pour la musicalité. Donc, même la science le prouve, la voix est alchimie entre raison et sentiments. Ah oui, t'as raison Gudule, très bon exemple. Pensez à une personne de votre famille par exemple que vous avez bien connue et qui n'est plus de ce monde. Une photo va sûrement vous émouvoir, mais c'est la voix de la personne qui va vous faire pleurer. Écoutons Gaël Josse. Il est éprouvant de revoir en photo un proche disparu, mais entendre sa voix, fût-ce une seule exclamation dans une mauvaise vidéo, est insoutenable. Douleur de reconnaître une voix aimée qui ne peut plus nous entendre, illusion de croire, un instant, revenu quelqu'un qui nous a été cher. Trop de présence, trop d'absence. Autre exemple, comment ne pas être ému par des voix comme celle-ci ? Maria Callas, s'il vous plaît, un petit extrait pour la route. Alors oui, bonne question, pourquoi une voix engendre-t-elle autant d'émotions ? Eh bien, cela peut s'expliquer scientifiquement par le principe en fait des neurones miroirs. C'est-à-dire que, pour faire simple, en entendant telle ou telle voix, notre cerveau va enclencher la sécrétion de telle ou telle hormone. Une voix sensuelle, par exemple, va augmenter la libido et la sécrétion d'ocytonine, l'hormone de l'amour. Et d'ailleurs, on a remarqué qu'à l'écoute d'une voix grave, la zone du cerveau liée au plaisir érotique s'allumait, ce qui engendrait une montée de l'hormone du désir. Eh bien oui, Gudule, c'est effectivement à ça qu'on peut conclure. Pour séduire, une voix grave, c'est mieux.
Vous n'imaginez pas mon bonheur d'être de retour devant un micro, de venir sur MFM et de savoir que je vais retrouver ou découvrir d'anciens, mais sans sommeil, mes nouveaux ou anciens sans sommeil que j'aime, pardon, je bafouille, et je suis très ému au 08 92 68 22 15, ainsi que par email adressé à macha@mfm.fr. À tout vite, tout vite. Bonsoir.
Bref, cette question d'hormones est quand même extraordinaire pour comprendre les pouvoirs de la voix. Tenez, par exemple, on a pris des enfants de 12 ans. À certains, on fait voir un film. Le taux de cortisol, l'hormone du stress, augmente et celui d'ocytonine, l'hormone du désir et de la récompense, est à zéro. À d'autres, on fait voir leur mère. Résultat, baisse du cortisol, donc baisse du stress, et hausse de l'ocytonine, l'hormone de la récompense. À d'autres, enfin, on fait entendre leur mère au téléphone, eh bien, l'ocytonine augmente à la seule écoute de la voix, même s'ils ne voient pas leur mère. Alors... Oui, Gugul, c'est étonnant, pourquoi cette réaction inopinée? Constatation 2, la voix stimule l'imagination. Car oui, sans image, en écoutant seulement une voix, on ne peut qu'imaginer et rêver. Alors les gens de la radio en jouent, et les réalisateurs de films aussi. Ah tiens, j'y avais pas pensé. Très bon conseil de film, Gugul. Prenons par exemple un cas où la voix stimule notre imagination, le polar danois The Guilty, sorti en 2018, dans lequel c'est la voix qui est au cœur du film. Alors, synopsis, une femme victime d'un kidnapping contacte les urgences de la police. La ligne est brutalement coupée. Pour retrouver cette femme, la policière qui a reçu l'appel ne peut compter que sur son intuition, son imagination et son téléphone. Un film qui repose sur la narration d'une action perçue uniquement grâce à la bande-son, des voix effrayées ou implorantes décrivent les conséquences des événements qui demeurera invisible pour un spectateur réduit au statut d'auditeur.
Tu décroches ou quoi ?
Le 112, j'écoute. Allô ? Vous êtes Iben ?
Salut, mon cœur.
Vous avez bu ?
Non, pas du tout.
Allez, ça suffit.
Qui vous accompagne ? Iben, cette personne sait que vous avez contacté le 112 ?
Non.
Avez-vous été enlevé ?
Oui.
Iben ?
Qui sait ? Ne vous mêlez pas de ça.
Alors, les voix comme stimulation de l'imagination, c'est aussi ce sur quoi joue l'écrivain Alain Damasio, qui publie sur Faune Radio les fragments hackés d'un futur qui résiste. Rien que des voix, à nous d'imaginer ce qui a pu se passer.
Sortie disponible, cœur de ville.
J'en viens du cœur de ville. Je veux sortir, capitaine. Trouve une alternative.
Il n'y a pas d'alternative. La seule sortie disponible est cœur de ville.
Change ton IA, connard !
Capitaine, qu'est-ce qui se passe exactement ?
Je vous connecte au réseau d'informations pertinents.
La gouvernance se refuse pour l'instant à parler de tragédie. La jeune fille aurait été retrouvée dans une mare de sang au beau milieu d'une rue privilège.
Trie-moi le flux par fraîcheur.
Temps réel.
Le trafic est bloqué sur toutes les voies rapides de la ville en raison de manifestations spontanées et violentes.
Il y a 2 minutes.
Une jeune fille de 24 ans, du nom de Liv Bekti, aurait été interceptée par un drone hier à 8h16 dans la rue Martin Luther King. Disposant d'un forfait standard, son statut ne lui donnait normalement pas accès à cette rue labellisée.
Bref, vous l'avez compris, la voix, c'est un vecteur privilégié pour faire marcher notre imagination, pour imaginer tout ce que l'on veut. Et oui, Gudule, tu réclames un petit peu de science, alors je voudrais juste te parler de deux petites anecdotes. La première, c'est pourquoi est-ce que quand on parle, notre voix ne nous paraît pas insupportable, alors que quand on écoute notre voix enregistrée, ça nous paraît totalement affreux, vraiment c'est horrible. Alors comment expliquer cette différence, puisqu'au final, notre voix ne change pas ? Eh bien, en fait, quand on entend notre voix enregistrée, on s'entend uniquement par un circuit extérieur, en gros par nos oreilles. Alors que quand on parle normalement, on s'entend parler, mais par deux circuits, le circuit extérieur, donc les oreilles, et le circuit interne. Et en gros, là, c'est notre corps entier qui vibre au son de notre voix. Or, ces vibrations sont d'une résonance grave, et le grave, c'est justement ce qui nous plaît, car c'est un des éléments de la séduction dans une voix. Donc quand on parle, on perçoit ces résonances graves qui nous plaisent, et quand on s'entend parler, le circuit interne ne les perçoit plus, on n'entend plus ces résonances graves qui nous plaisent tant, et du coup notre voix nous paraît carrément horrible. Gudule, qu'est-ce que tu nous proposes maintenant ? Alors, oui, j'arrive. Tu as raison, on pourrait peut-être parler de... Oh, calme-toi. On pourrait peut-être parler de la voix dans notre quotidien, puisque oui, Gudule, voyons ça concrètement, la voix dans notre quotidien est partout. 15h, vous rentrez chez vous, vous laissez tomber sur votre canapé et très vite votre esprit s'échappe et vagabonde. Pas de doute, vous parlez à vous-même et c'est avec une voix intérieure que vous dialoguez. Et oui, j'en parle parce que Victor Rosenthal, avec quelqu'un à qui parler, a écrit une histoire de la voix intérieure. Alors... Oui, Gudule, le philosophe... Gudule ne réagit pas très bien. Gudule, ce philosophe, nous parle bien des amis imaginaires ou des monologues intérieurs. Pour lui, ces dialogues ont un rôle essentiel, nous permettent de nous libérer de l'asservissement de l'actualité, de prendre du recul face aux événements pour se constituer un moi autonome face aux faits qui nous échappent. Et puis, ces dialogues intérieurs, si bêtes pourraient-ils paraître, pourraient être un instrument de connaissance de soi et des autres, puisque ces voix qui nous habitent incarnent différentes postures, différents avis. On peut donc plus facilement inverser les rôles et adopter le point de vue d'un autre pour comprendre autrui et prendre les bonnes décisions. À 16h, l'heure d'aller prendre votre train, à peine arrivé sur le quai de la gare, une voix familière. Car oui, nous sommes entourés aujourd'hui de voix artificielles qui sont partout. Tout ça, c'est le produit de la synthèse vocale, discipline dont l'objectif est de produire artificiellement des effets sonores imitant la voix humaine. Et d'ailleurs, figurez-vous que ces voix artificielles ne sont pas si récentes, puisqu'en 1791 déjà, on construit des machines à parler mécaniques. Et d'ailleurs, vient ensuite dans les années 1930 et développé par Bell, les premiers synthétiseurs vocaux électriques, puis le vocodeur de Homer Dudley, dont les sonorités sont utilisées par des artistes comme Daft Punk. D'ailleurs, les voix automatiques peuvent être utilisées de manière plutôt sexiste. Les annonces qui visent à informer sont faites par des voix de femmes, alors que celles qui visent à rassurer, typiquement « ne vous inquiétez pas, on gère les pickpockets », sont des voix masculines jugées plus protectrices. Alors, pour remédier à ça, des chercheurs danois ont mis au point la voix Q, une voix totalement neutre, ni masculine ni féminine. Je vous laisse entendre ce que ça donne.
Hi, I'm Q, the world's first genderless voice assistant. Think of me like Siri or Alexa, but neither male nor female.
Alors, quoi qu'il en soit, les voix artificielles se développent et l'assistant vocal d'Amazon, Alexa, dispose désormais de deux modes émotionnels, à savoir heureux, excité ou triste, empathique. Le premier pourrait être enclenché si le client gagne une partie d'un jeu, et le second, donc le mode triste, pourrait être enclenché si le client demande des informations sportives et que son équipe favorite a perdu. Plus original, Alexa s'enrichira d'un nouveau logiciel capable de détecter la joie, la colère, le dégoût, le chagrin, l'ennui et le stress. Exemple, un consommateur s'enquiert de nourriture auprès d'Alexa, mais sa voix est enrouée et trahit un rhume. Amazon lui propose donc une recette de bouillon de poulet ou des publicités spécialisées dans les soupes ou le miel. De quoi donner des discussions plutôt cocasses. Alors oui, tu as raison, Gudule, la voix aussi, et non pas dans les assistants vocaux aujourd'hui, mais elle est aussi dans ce qui dure depuis des siècles, qui émeut et qui échappe à l'obsolescence programmée, c'est la poésie et la littérature. La poésie, par exemple. La poésie parle de voix, mais elle est aussi la voix en situation, ne serait-ce que la voix du moi. La voix, c'est aussi ce qui donne naissance au texte lorsque le poète est inspiré par une voix intérieure ou par les voix de la muse. Et oui, c'est vrai qu'on dit souvent qu'un écrivain est une voix. C'est intéressant, comme s'il y avait un effet de sujet, un effet de présence issu d'une absence. En effet, l'écrivain, c'est celui qui s'empare du langage pour en faire un usage singulier. Et le rapport entre l'écriture et la voix, avant tout, pose question. Y a-t-il un rapport direct entre ce qui fait vivre, entre ce qui est fait de vive voix, l'actorale, et ce qui peut-être est fait de morte voix, l'écriture, comment rendre la voix? Bref, la voix, en fait, ce serait ce qui tient très largement l'écriture en échec. L'écriture ne peut produire de la voix qu'un effet lointain. Oui, tu as raison, Gudule, il est temps de conclure cette émission en disant que la voix est indispensable à la vie, outil de communication et de pouvoir à entretenir, formidable instrument à susciter des émotions. Mais on pourrait aussi dire que la voix ne fait pas tout et qu'il faut parfois aussi savoir faire silence, car oui, le silence aussi a une histoire, Alain Corbin ne nous l'a que trop dit. Et oui, de la radio sans voix, c'est possible. Allez, pour vous en convaincre, écoutez les podcasts de Tiny Tunes sur Phone Radio, concoctés uniquement à partir de sons de nature. Et avec nos voix, espérons que nous puissions montrer la voie, tracer des voies nouvelles, encourager tantôt à élever la voix et le débat, tantôt à la poser et à poser les choses à plat. Avec notre voix, tentons de tisser des liens, de bâtir des passerelles qui ne se voient pas mais qui existent pourtant. Passerelles entre nous et l'auditeur, par-delà les micros et par-delà la distance. Un lien fécond qui ouvre les possibles, rassemble et inspire. Une communion féconde sur les ondes ou ailleurs. Et surtout, laissons-nous porter par les voix qui nous émeuvent et nous abreuvent, ces voix qui nous bouleversent et nous inspirent au quotidien, à l'opéra ou à la radio, et ne nous laissons pas avoir par les voix, par ces sirènes du lys de notre temps, ces voix qui nous disent de faire comme les autres, de consommer et d'acheter, ces voix envahissantes des publicités. Je laisse la parole à Victor et à la prochaine pour un nouvel épisode de Passerelle où j'espère faire de la voix un outil pour apprendre, réfléchir et faire de la radio.